Chapitre 31. Au pied d'un rocher qui se dressait à la lisière de la forêt, Callan trouva un endroit tranquille où s'installer à l'abri de la brise frisquette qui balayait le plateau. Le ciel étant dégagé, il n'y avait pas à redouter qu'il pleuve. Dans ces conditions, inutile de construire des abris, une bonne chose quand il restait si peu d'heures à dormir. Après un rapide repas, la majorité des hommes avaient sombré dans le sommeil. À part les sentinelles, bien entendu. Mais dans ce camp, Callan se sentait en parfaite sécurité. Après la traversée, le pont avait, comme prévu, été jeté dans le vide. Se sentir séparé par un gouffre d'éventuels Shuntuk survivants était un sentiment très agréable. Ayant été aux premières loges pour assister au cataclysme, l'inquisitrice était mieux placée que quiconque pour estimer sa violence. À ses yeux, il n'y avait pas eu de survivants. Et si quelques miraculés avaient bénéficié d'une poche, ils crèveraient de faim et de soif sous une montagne de pierres d'où personne au monde n'aurait été capable de s'extraire. À moins qu'ils périssent noyés si un barrage naturel empêchait les eaux du ruisseau de sortir de la gorge. Bien entendu, Anis Arc et Sulakan enverraient d'autres demi-humains et d'autres pisteurs d'esprit. Si terrifiante que fût cette menace, ce n'était pas le plus grave problème des fugitifs. Parce qu'elle se sentait en sécurité, Callan n'avait pas trop protesté quand Pfister lui avait interdit de prendre un tour de garde. Selon lui, elle s'était battue comme 10 hommes et il fallait qu'elle se repose au cas où on aurait encore besoin d'elle le lendemain. Tandis que Richard resterait inconscient, elle serait la mieux qualifiée pour manier l'épée de vérité et il fallait donc qu'elle se ménage. Callan avait quand même protesté, mais juste pour la forme. Au sourire que Pfister n'avait pas pu étouffer, elle avait compris qu'il n'était pas dupe. À dire vrai, complètement exténué, Callan aurait fait une bien piètre sentinelle, au point de risquer de s'endormir debout. Malgré la fatigue, elle mourait de faim. Après une longue course, une bataille sans pitié et une autre longue course, il lui fallait avaler quelque chose avant de s'endormir. Cuisiner étant hors de question, tout le monde avait dû se contenter des rations de voyage. Depuis que le camp était dressé, Zed n'avait pas cessé de dévorer et il semblait plutôt satisfait de l'ordinaire. Le pont avait été construit en un temps record. Avec leurs haches, les soldats, habitués à cette tâche, avaient coupé les arbres en quelques minutes. Puis Zed les avait aidés à mettre les troncs en place. Enfin, il avait l'impression de l'avoir fait, car les soldats savaient rudement bien ce qu'ils faisaient. Alors que quelques hommes avaient traversé pour explorer le terrain, d'autres avaient fini d'élaguer les troncs avec leurs haches. Pendant ce temps, un autre groupe s'était chargé de fabriquer les planches indispensables pour faire passer le cheval, et bien utile pour tout le monde, car ce moyen de traverser était quand même plus sûr que de jouer les funambules sur un simple tronc. La jument n'avait guère apprécié l'exercice, mais avec un bandeau sur les yeux, Zed se servant de son don pour la calmer, la traversée avait été à la fois rapide et paisible. Pour la première fois depuis longtemps, Callan se sentait en sécurité. Richard était confortablement installé. Sa femme aurait aimé dormir près de lui, mais Zed et Nietzsche avaient insisté pour se reposer un peu à ses côtés, chacun sur un flanc, avant de s'occuper de lui. Callan n'avait pas jugé judicieux de les contrarier. Regardant Richard, non loin de là, elle vit que le vieux sorcier, encore assis près de lui, finissait d'engloutir une énorme saucisse. Nietzsche dormait déjà, un bras sur la poitrine du sourcier, visiblement rassuré de sentir qu'il respirait encore. Un peu plus loin, Samantha dormait à poings fermés à côté de sa mère. Les bras autour de ses genoux pliés, Irena observait le camp en grignotant un biscuit sec. La nuit étant bien trop avancée, Callan n'avait pas eu le temps d'évoquer avec la magicienne les exploits de sa fille. Et Irena, bizarrement, n'avait pas semblé s'y intéresser beaucoup. Peut-être parce que savoir la vérité lui faisait peur. Effrayés par le changement, certains parents espéraient que leurs enfants ne grandiraient jamais. Callan aurait parié que les lacunes dans la formation de Samantha venaient de là. Selon Richard, Irena avait négligé de lui apprendre ce qu'une magicienne, même si jeune, devait absolument savoir. Certaines personnes, comme le sorcier lui-même, ne recevaient jamais aucune formation magique. En ce qui concernait Richard, on lui avait caché qu'il était né avec le don afin de le soustraire à ceux qui entendaient le détruire. Tout au contraire, Callan avait été éduqué depuis son plus jeune âge, apprenant à utiliser son pouvoir presque avant d'être capable de marcher. Ces deux trajectoires totalement opposées paraissaient leur avoir très bien convenu. Zed avait eu d'excellentes raisons de cacher la vérité à son petit-fils, et la mère de Callan de tout aussi bons motifs pour élever strictement et efficacement sa fille. Samantha semblait savoir fort peu de choses sur la mission des siens, les villageois de Stroiza, et en particulier sur le rôle dévolu aux détenteurs du don. Au fil des siècles, les sentinelles avaient peut-être fini par oublier pourquoi elles surveillaient le mur du Nord et ce qu'il y avait derrière. Une fois Richard réveillé, Callan et lui devraient interroger Irena, pour découvrir si elle pouvait leur fournir des informations utiles. Les forces restées prisonnières derrière le mur pendant des millénaires étaient à présent lâchées sur le monde, et pour les arrêter, il allait falloir en savoir plus long à leur sujet. Balayant le camp du regard, Callan vit que les hommes dormaient paisiblement. Soulagé qu'ils aient presque tous survécu et que le plan ait fonctionné, elle aurait volontiers éclaté en sanglots, de joie pour une fois, mais elle n'en fit rien. Déballant un morceau de poisson séché et un petit bout de saucisse, elle se mit à manger, faisant passer tout ça avec de l'eau. À dire vrai, le poisson séché et la saucisse ne lui plaisaient pas vraiment, mais dans de telles conditions, il valait tous les festins du monde. Préférant quand même la saucisse fumée, elle la gardait pour la fin. Croyant entendre des murmures ou une sorte de ronronnement, elle leva les yeux. Au sommet du rocher auquel elle s'adossait, elle vit briller les grands yeux verts d'une créature accroupie, un prédateur qui la guettait.